Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
Il faut savoir que le marché s'est effondré très, très, très rapidement. En 2 ans de temps, on est passé de tout à rien. Et donc, en 2005, j'ai à peine 25 ans que je fais ma première faillite à ce moment-là. Le business model a fortement changé pour les deux faillites que j'ai connues. Maintenant, tirer des plans sur la comète à l'heure d'aujourd'hui, à plus de 3 ans, c'est compliqué. Le marché change tellement vite. Moi, personnellement, lancer un business et me dire que ça va être rentable dans 5 à 10 ans, j'y vais pas. Moi, je pense qu'il faut se diversifier. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que, voilà, effectivement, ne pas rester sur ses acquis non plus. C'est pas parce que ça marche aujourd'hui que ça va marcher pendant 10 ans.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut François.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Super, super, la forme. Et toi ?
Eh ben écoute, en pleine forme, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait un petit moment, François, qu'on se connaît. On a pu échanger à de nombreuses reprises et on s'est vu il y a de ça pas si longtemps que ça. Tu évoquais justement ton parcours et j'ai eu le déclic lorsque j'ai pu en savoir un petit peu plus sur certains éléments de ton parcours. Je voulais absolument que tu viennes ici sur le plateau du déclic pour nous expliquer qui tu es, ce que tu fais. Et les hauts, mais aussi les bas que tu as pu vivre au travers de ces dernières années. Je vais rapidement te présenter. Aujourd'hui, tu es à la tête de 5 franchises de la célèbre enseigne Cash Converters, une enseigne d'achat et de vente de produits d'occasion. C'est en 2002 que tu acquiers ta toute première franchise et que tu découvres donc ce monde avec un autre franchiseur que celui qu'on vient de citer il y a quelques instants. Et en 2006, plus précisément, que tu te lances dans l'achat revente, cette folle aventure pour en 2009 lancer ton premier Cash Converters. Aujourd'hui, tu es dirigeant d'une équipe de plus de 40 employés. Ton parcours est particulièrement intéressant, notamment, on le citait tout à l'heure, parce que tu as également connu 2 faillites, la première en 2005 et la deuxième en 2019. On va en parler ici aujourd'hui dans cet épisode parce que j'ai rarement l'occasion de pouvoir avoir des entrepreneurs qui, comme toi, ont eu littéralement un roller coaster émotionnel dans leur parcours, dans leur carrière et qui peuvent en parler ouvertement et librement comme tu sais le faire. Et un autre point intéressant dans ton cas, c'est que tu es associé avec plusieurs personnes, mais aussi sur la quasi-intégralité de tes entreprises avec ton frère. On en parlera également, ce n'est pas anodin. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai plusieurs questions à te poser. J'ai envie, comme je le fais très régulièrement ces derniers temps, de remercier un de nos auditeurs, grâce à qui eh bien, nous sommes si bien positionnés sur les plateformes de podcast. Continuez à nous donner de la force, à partager les épisodes, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de streaming préférée si vous nous écoutez et que vous appréciez les épisodes du Déclic. Merci à Yves LPB, qui a un pseudo particulier qui n'est pas son prénom, j'imagine, qui nous dit « Quelle découverte ! Merci, merci de me faire passer le temps aussi intelligemment. » Mais écoute, on va essayer pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, François, ici, de faire passer le temps intelligemment encore une fois et d'apporter un maximum de valeur. Merci d'être ici. J'ai envie de démarrer par le commencement, par les débuts, venant d'une famille ouvrière sans antécédents entrepreneuriaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur de la seconde main, mais peut-être que tu n'avais pas démarré par ça initialement, mais en gros, quel est le déclic qui a fait que tu as voulu être entrepreneur un jour ?
Alors, merci d'abord pour l'invitation, Alec. Alors moi, en fait, il faut savoir qu'effectivement, je viens d'une famille d'ouvrières, des entrepreneurs dans la famille, il n'y en a pas. Je suis un des seuls fous à l'avoir fait. En fait, moi, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat quand j'ai fait mon premier job d'étudiant à l'âge de 18-19 ans. C'est là que j'ai découvert, en fait, ici, le monde de la franchise. J'ai travaillé comme étudiant dans un vidéoclub et mon boss était franchisé en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat, la franchise et l'envie de ne pas faire un horaire de bureau 8-16 pendant 40 ans.
D'accord. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui te stimule le plus? C'est la possibilité en tant qu'entrepreneur de donner vie à chacun de ses projets, ses idées, ses envies. C'est le côté liberté et cadre non imposé qui te permet d'exprimer ton potentiel. Est-ce que c'est autre chose?
En fait, c'est un peu tout. Moi, ce qui m'a vraiment mis le déclic, entre guillemets, c'est de se dire qu'il y avait moyen de gagner mieux sa vie qu'en étant simple salarié, qu'il y avait des possibilités de se faire son propre horaire. Et toutes ces petites choses-là m'ont convaincu qu'à un moment donné, il fallait se lancer, quoi.
Ok, très clair. Et justement, avant d'investir dans ta première boutique, tu as travaillé dur pour économiser le capital nécessaire.
Ouais.
Durant cette période de transition, tu t'es formé en parallèle pour te lancer. Comment ça s'est passé? Parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une ère où l'entrepreneuriat est relativement à la mode, d'autant plus que les barrières à l'entrée pour entreprendre, lorsque l'on veut se lancer en ligne, mais aussi en physique, il y a des possibilités aujourd'hui qui font que c'est devenu un petit peu plus accessible, selon bien sûr les industries, hein. Mais là, en l'occurrence, toi, tu es relativement jeune. Comme tu le dis, tu n'as aucune personne dans ta famille qui est issue d'un monde entrepreneurial. Il va falloir avoir des capitaux. Tu vas donc accumuler plusieurs jobs pour pouvoir générer ces capitaux et ensuite te lancer. Qu'est-ce qui fait que tu oses te lancer? Comment est-ce que tu te formes pour peut-être te lancer? Ou est-ce que directement tu pars à l'aventure, la tête la première, et tu te dis, j'apprendrai dans la chute?
Ah ben voilà, ça me correspond totalement. La tête la première et on verra la suite.
Ok,
Donc
d'accord.
c'est comme ça que j'ai fonctionné. Alors moi, il faut savoir que quand j'étais étudiant, je me comportais déjà comme un salarié. Une fois que j'ai été salarié, mais j'ai été salarié, je pense, même pas 6 mois, je me suis comporté comme un responsable de point de vente. Une fois que j'ai été responsable de point de vente, je me suis comporté comme un franchisé. Et une fois que j'ai été franchisé, j'avais déjà toutes les cartes en main à ce moment-là, quoi. Donc c'est vraiment, j'ai appris sur le tas, sur le terrain et rien d'autre.
Donc, tu avais vraiment cette volonté finalement d'être dans l'étape suivante à chaque fois.
Oui, à chaque fois. À chaque fois, j'ai essayé d'avoir un coup d'avance ou une idée avant les autres ou voilà quoi. C'est comme ça que je fonctionne.
Et quand tu lances justement ta première boutique, ton premier business dans le domaine de la franchise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lancement? On est en 2002, donc c'est il y a
C'est bien ça.
22 ans.
Ouais.
Ça fait un petit bout de temps. Il y a 22 ans, on n'est pas dans le même marché, c'est pas le même contexte, il n'y a pas la même mentalité, il n'y a pas les mêmes facilités. Aujourd'hui, certains qui entreprennent depuis peut-être 3, 4, 5 ans, de la difficulté à se projeter. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça se passe au début, lorsque tu te lances dans cette nouvelle aventure, sans formation, sans connaissance particulière?
Ouais. Alors moi, j'ai, comme tu l'as dit là tout de suite, c'est la tête la première. Moi, j'avais vraiment envie de me lancer et j'avais un peu de fonds, mais j'avais pas la totalité. Mais j'avais vraiment cette envie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été emprunter un petit peu d'argent à mes parents, un petit peu d'argent à mon frère, un petit peu d'argent à mon oncle et compagnie pour absolument me lancer. Et donc, l'aventure a commencé. Et la première chose que j'ai faite, c'est de rembourser tout le monde, en fait. Donc, une fois que l'aventure a commencé, j'ai remboursé tout le monde. Mais elle a pas duré très longtemps, malheureusement, l'aventure. Faut savoir que c'était une franchise de vidéoclub. Et à cette époque-là, on commençait les DVD, le téléchargement, Internet et tout ça. Et donc, le marché s'est effondré très, très, très rapidement. Le marché a changé en 2 ans de temps. On est passé de tout à rien, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2005, que j'ai à peine 25 ans, que je découvre le monde de la faillite et je fais ma première faillite à ce moment-là, quoi.
Et justement, donc pendant ces premières années, quand on est dans une franchise, parce qu'on pourrait se dire après coup, oui, mais alors du coup, pourquoi, comme certains grands, parce qu'il me semble que il y avait une grande franchise américaine, je crois que ça s'appelait Blockbuster, ou je sais plus exactement.
C'est bien ça. C'est bien ça. C'est la plus grosse franchise de vidéoclub à ce moment-là qui existait aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. En
Exact.
France, c'était Vidéo Future. Ça, c'était pour la France. Et en Belgique, nous, c'était les Vidéothèques Images. À ce moment-là, il y avait une quarantaine de points de vente rien que sur la Belgique. Donc,
Ouais, complètement. Et pour effectivement donner du concret à celles et ceux qui nous écoutent, Blockbuster, c'était un immense truc, un géant, un monstre complètement, des chiffres énormissime. Et malgré la grandeur de cette entreprise, malgré le cash dont elle disposait également et les leviers dont elle disposait, cette franchise aussi a fait faillite.
A disparu
ouais, complètement, laissant sa place notamment à Netflix, qui a plus ou moins...
Et ils ont eu l'opportunité, à un moment donné, Netflix allait très très mal au tout début, et ils ont eu l'opportunité de racheter et ils ont refusé en fait.
Complètement, c'est assez dingue. Et tiens, justement, avec du recul... Avant qu'on ait un petit peu plus dans le sujet de la faillite et différents sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi, l'élément sous-jacent de ça est beaucoup comme Blockbuster ou les différentes sociétés que tu as citées ont vécu exactement la même chose à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté de pivoter, qu'ils n'ont pas forcément pris la vague au bon moment pour pouvoir faire face au numérique. Quand on est dans un marché où parfois l'innovation peut prendre le pas sur des choses qui sont établies depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avec du recul, quelles auraient été les choses qui auraient pu être mises en place pour éviter ces faillites et pivoter au bon moment?
Alors moi, je pense qu'il faut se diversifier. Il ne faut pas mettre, comme je dis souvent, tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que, voilà, effectivement, ne pas rester sur ses acquis non plus. Ce n'est pas parce que ça marche aujourd'hui que ça va marcher pendant 10 ans.
Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Et justement, donc en 2005, tu connais ta première faillite. Tu t'endettes à hauteur de 150 000 euros. Quelles sont les circonstances qui t'ont mené à cette situation? Comment tu as géré cette période? Quelles sont les stratégies que tu as pu adopter pour rebondir?
Alors moi, il faut savoir que cette dette de 150 000 euros, c'était une dette de caution à la banque pour mon financement que j'avais fait en 2002. Et moi, à cette époque-là, en 2002, je suis franchisé, je ne suis pas entouré. Moi, j'ai signé des papiers sans savoir ce que je signais réellement. Donc, je dis toujours, on apprend de ses erreurs. Mais donc, voilà, je me retrouve en 2005 avec une faillite. Je me dis, la boutique, elle ferme. Voilà, on passe à autre chose. Et je reçois un joli petit recommandé de la banque qui me dit, mais monsieur, vous nous devez encore 150 000 euros. Vous êtes caution de votre crédit. Et donc là, je me dis qu'à l'âge de 25 ans, avoir une dette de 150 000 euros, on est en 2005, hein, il y a 20 ans, 150 000 euros, c'est pas les 150 000 euros d'aujourd'hui. Hein. Donc je me dis, ça y est, ma vie est fichue, elle est finie, alors que j'ai que 25 ans. Et voilà quoi, donc ça a été un peu compliqué pendant quelques mois, et puis j'ai fait face, j'ai relevé la tête, et je me suis dit, on verra bien. On verra bien, parce que les 150 000 euros, ni moi, ni ma famille, ni des amis, on avait cette somme pour pouvoir rembourser cette dette.
Et du coup, comment tu t'y prends pour la rembourser? Parce que 150 000 euros à 25 ans en 2005, sachant que, encore une fois, tu viens de faire faillite, tu n'as pas d'expérience entrepreneuriale, c'est ta première expérience entrepreneuriale. Donc, il faut avoir de la suite dans les idées, une force de caractère. Comment est-ce que tu t'y es pris pour la rembourser?
Alors, j'ai fait l'autruche, entre guillemets, pendant 6 ans, plus ou moins.
D'accord.
Ouais, c'est ça, 6 ans. En fait, j'ai fait l'autruche parce que l'argent, je l'avais pas. Donc, je me suis dit, on va venir me chercher quoi? On va me demander quoi? Il n'y a pas. Donc, voilà, j'ai fait l'autruche pendant 6 ans. Et entre-temps, j'ai pu évoluer un peu personnellement et professionnellement. Mais je me suis arrangé pour pas qu'on vienne me chercher le peu que je pouvais avoir de côté.
OK. Et justement... Donc, tu as mis 6 ans à rembourser. Donc, ça, c'est intéressant parce que…
Non, j'ai pas mis 6 ans à rembourser. J'ai fait l'autruche pendant 6 ans. J'ai rien remboursé pendant 6 ans.
OK. Donc, et typiquement…
De 2005 à 2011, j'ai rien remboursé parce que je n'avais rien.
OK. Et donc là, justement, pendant 6 ans où tu réponds pas aux lettres, j'imagine que les banques te sollicitent, t'appellent, t'envoient des courriers, peut-être même des huissiers.
Non, pas tant que ça, Alec. Pas tant que ça, parce qu'en fait, je l'ai découvert par après. J'ai dit à la personne responsable de mon dossier, j'ai plus reçu de courrier, j'ai plus reçu de huissier et compagnie. Et le gars m'a répondu gentiment. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes à peine salarié, vous avez à peine le SMIC. Qu'est-ce que je vais m'embêter à vous envoyer un huissier pour saisir quoi? Une chaise, une table, une télé? Il dit, ça va me coûter plus cher qu'autre chose.
Ouais, là, tu casses une idée reçue, je pense, pour beaucoup, notamment même moi. Tu vois, moi, mon côté. Trop suisse, trop honnête, trop carré, où je me dis, mais si ne serait-ce qu'il y a une facture de 1 000 euros impayée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, il y a la police qui va sonner à ma porte tous les jours. Donc, effectivement, c'est assez drôle. Et donc, pendant 6 ans, tu fais l'autruche. 2011, Tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, je vais régler cette première dette et comment tu t'y prends?
Alors, et entre 2005 et 2011, il y a eu un peu de développement quand même, hein. Je me suis retrouvé responsable d'un magasin, justement, de chez Cash Converters, que c'est un ami à moi à l'époque qui ouvre et qui me dit, écoute, viens bosser avec moi, j'ai besoin de quelqu'un, compagnie. Je me dis, ouais, OK, ça va. Je me retrouve responsable de son magasin et à un moment donné, au lieu de négocier un package salarial, j'ai la bonne idée de lui demander des parts dans le business, en fait.
Ok.
Et donc, voilà, donc on négocie ça. Mais moi, effectivement, comme j'ai une dette de 150 000 euros vis-à-vis de la banque, je me dis, si moi, les parts, elles apparaissent à mon nom, à un moment donné, le peu qu'il y a, ils vont venir les chercher. Donc, je m'arrange avec mon petit frère, en fait, pour que les parts se retrouvent à son nom et pas au mien,
D'accord.
pour éviter justement qu'on vienne me chercher le peu que j'arrive à gagner.
On y reviendra justement avec ce nouveau projet finalement qui fait que on en arrive à la personne que tu es aujourd'hui, même s'il y a eu encore une autre péripétie qu'on va évoquer dans un instant. Mais après cette première faillite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que beaucoup auraient pu se décourager, voire même abandonner l'idée complète d'entreprendre à nouveau. Qu'est-ce qui finalement t'a fait tenir? Quel message est-ce que tu souhaiterais peut-être passer aux entrepreneurs qui se sentent découragés ou qui font face à des échecs similaires ou des challenges, des enjeux importants, comment est-ce que tu les encouragerais à persévérer et à voir au-delà même de l'échec immédiat? Parce que lorsqu'on est face à ce que l'on perçoit à un instant T comme une montagne de difficultés quasiment infranchissable, ce qui était, j'imagine, ton cas en 2005, quand tu dis j'ai 150 000 euros de dette, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, avec du recul, peut-être que t'as appris de cette expérience, t'es enrichi de cette expérience et tu aurais un message à partager à ceux qui peut-être font face ou vont faire face, même si je ne le souhaite pas, à ce genre de problématique.
Moi, je dirais que, en fait, rien n'est jamais perdu. Moi, c'est la leçon que j'en retiens, c'est que rien n'est jamais perdu. Il faut toujours y faire face à ses problèmes. Et il y a toujours, je dis toujours, après la pluie, il vient le beau temps. Donc, voilà.
Ok.
Il faut persévérer.
Et qu'est-ce qui fait que tu persévérais? Parce que tu vois, quand on persévère, c'est que finalement, on a le sentiment on a conscience qu'il est possible de. On a une infime conviction sur le fait qu'il est possible, au fond du tunnel, de retrouver la lumière. Dans ton cas, qu'est-ce qui te faisait tenir?
Bah, je pense que pour être entrepreneur, déjà, il faut un brin de folie. Donc ça, c'est déjà tout entrepreneur, s'il n'a pas un brin de folie, il n'est pas entrepreneur. Donc ça, c'est pour moi la première chose. Et moi, au fond de moi, je me suis toujours dit, si les autres peuvent y arriver, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas y arriver? Donc c'est ça que je me suis toujours dit, en fait.
Ok. On va revenir dans un instant sur le modèle de la franchise qui, je pense, intéresse bon nombre de nos auditeurs. On a reçu pas mal de business model de la franchise ces derniers temps, certains franchisés, d'autres franchiseurs. Mais avant ça, en 2019, donc tu as envie de te diversifier avec cette fameuse maxime que tu as évoquée, pas mettre les œufs dans le même panier. Notamment en important un concept de restauration canadien à Bruxelles, donc en Belgique. Malheureusement, le projet découle sur une faillite, une nouvelle faillite suite à la pandémie. Comment est-ce que tu vis cette seconde faillite? Est-ce que tu peux nous expliquer justement le projet, les chiffres, les enjeux, comment ça se passe et la situation? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, avant de revenir à ça, Alec, moi j'aimerais bien qu'on parle quand même de mon envie de développer en 2011.
Ouais.
C'est qu'à un moment donné, moi je me retrouve toujours avec cette faillite au-dessus de la tête. Et donc, moi j'arrive à négocier avec la banque, en fait. C'est que la banque, à un moment donné, ne vient pas me chercher et moi, je prends l'initiative d'aller les voir et de me dire, il faut que j'arrive à m'en sortir de cette dette qui me pèse au-dessus de la tête. Et donc, il faut savoir qu'entre 2005 et 2011, ben, les 150 000 euros, ils se sont transformés en 250 000 euros. Ils ont rajouté les intérêts, des frais d'indemnité, bazar et compagnie.
Wow.
Et donc, moi, là, je me suis dit en 2011, ça y est, c'est foutu, en fait. Là, je suis cuit. Et le gars, le gestionnaire de mon dossier, il me dit, écoutez, monsieur, comment est-ce que vous allez faire? J'ai dit, écoutez, mais rien que les intérêts, rien que les indemnités de 100 000 euros, je sais déjà pas vous les payer, donc je vois pas comment est-ce qu'on va trouver une solution. Et cette personne-là m'a dit, bah, écoutez, faites-nous une proposition et on verra ce qu'on peut faire. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme proposition? On parle de 250 000 euros. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai passé une nuit à trouver le montant que je pouvais rembourser, qui pouvait me permettre de me libérer de cette dette et qui pouvait me permettre de continuer à me développer, en fait. Et donc, il s'avère qu'à ce moment-là, ben, j'ai fait une proposition qui a été acceptée de 22 500 euros. Donc, la dette est passée de 250 000 euros à 22 500 euros.
Ok.
Et 6 mois après, je faisais un financement dans la même banque pour un nouveau business, un nouveau magasin, pour un montant de 250 000 euros.
Alors, là, on va creuser un peu ce sujet parce que pour moi, comme la plupart des gens qui nous écoutent, je pense que ça attise la curiosité. Alors, moi, l'histoire, je l'ai entendue justement lorsque tu évoquais tout ça et c'est vrai que c'est assez dingue, mais ça peut paraître fou. Est-ce qu'il y a uniquement cet email? Est-ce qu'il y a ensuite d'autres échanges? Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui fait que la banque accepte ce deal? Est-ce que c'est parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix? Est-ce que, parce que ça peut paraître limite peut-être invraisemblable pour certains qui nous écoutent, d'autant plus que derrière, tu évoques le fait que la relation commerciale entre les deux parties, donc toi et la banque, ben, est plutôt restée, on va dire, en bon terme, vu que derrière, tu as pu emprunter à nouveau pour ton nouveau projet, ça peut être intéressant de creuser le sujet.
Donc moi, en fait, il faut savoir que pendant 6 ans, ils n'ont pas eu de nouvelles de moi, ils n'ont pas eu un euro de remboursé. Donc pour moi, je pense que la banque s'est dit, le dossier ici, il est mort, il est fini, on n'en tirera rien. Donc quand moi j'ai pris l'initiative de contacter la banque et d'essayer de trouver une solution, bah, je pense que le gestionnaire, il s'est dit, vaut mieux prendre ça que rien du tout, quoi.
D'accord. Ok.
Donc voilà.
Donc, uniquement au même titre que le banquier ne t'a pas sollicité pendant 6 ans quand tu faisais l'autruche, là en l'occurrence, ils se sont dit, bon, de toute façon, perdu pour perdu, récupérons ce qu'on peut récupérer, acceptons la chose et on verra bien plus tard. Tu penses
Voilà,
que,
je pense que c'est
tu penses
ça.
que, excuse-moi, je te coupe, mais tu penses que c'est un cas qui est isolé? Ou c'est un cas qui est pas du tout une anomalie de marché.
Je pense qu'entre nous, c'est pas une anomalie de marché. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui sont rentrés en compte, qui m'ont permis d'avoir ça. Il faut savoir que la faillite que j'ai eue, c'est pas une faillite frauduleuse, c'est pas de la mauvaise gestion, c'est le business model qui a complètement changé. Donc à ce moment-là, les vidéoclubs, ils tombaient comme des mouches. Donc je pense que déjà vis-à-vis de la banque, voilà, ça a changé la donne. Après, effectivement, moi j'ai été toqué à la porte, j'ai pris l'initiative, j'ai pris les devants et j'ai essayé de trouver des solutions. On n'aurait pas trouvé ce montant, on ne serait pas tombé d'accord sur ce montant-là, j'aurais pas baissé les bras, j'aurais trouvé d'autres solutions pour me retirer cette enclume au-dessus de la tête, quoi.
D'accord, très clair. Et justement, donc, tu vas ensuite faire en sorte de développer ton projet derrière, donc avec ce prêt. On en parlera, je pense que c'est lié justement à la franchise Cash Converters. Et revenons sur 2019. Revenons sur 2019, ce fameux projet de restaurant canadien à Bruxelles. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Alors moi, je découvre ça en 2018-2019. Je découvre ça au salon de la franchise à Paris. Donc, je découvre cette franchise canadienne de fast-food végétal. Donc, c'est dans l'air du temps. Ils ont un très bon marketing. Ça marche pas mal du tout au Canada. Je me suis dit, ça, c'est un bon business à développer sur Bruxelles. Moi, je suis d'origine de Bruxelles, donc je me dis, pourquoi pas en implanter sur Bruxelles. Et donc voilà, on trouve un accord avec eux, on signe l'exclusivité sur Bruxelles pour une dizaine de points de vente à ouvrir rapidement en 3-4 ans. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Covid arrive, la pandémie arrive. Nous, c'est un business model qui dépend énormément des quartiers ou tout ce qui est bureau. Donc voilà, la pandémie arrive, on serre les fesses vulgairement dit pendant 3-4 mois. on laisse passer un peu la vague, et après on se rend compte qu'en fait, le business model a complètement changé, puisque le télétravail est devenu la norme, ben donc on n'avait plus de clients. Donc ça a été très 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 compliqué. Pendant 3 ans, on a essayé de maintenir le bateau à flot, et on s'est rendu compte que ça allait plus aller du tout, donc on a décidé de déposer le bilan, quoi.
Donc, pendant 3 ans, vous essayez de maintenir le bateau à flot. Comment vous financez ce bateau? Est-ce que justement c'est via de la trésorerie d'autres entités, c'est via des prêts, via vos fonds propres?
Alors, il y a une partie en fonds propres, il y a une partie à peu près un tiers en fonds propres, et les 2 tiers restants, bah, c'est un financement bancaire. C'est un financement bancaire qu'on a fait. Après, au moment de signer les prêts bancaires en 2019, bah, je me suis quand même un peu servi de ma faillite presque 15 ans auparavant pour savoir quoi signer, comment signer, quoi.
En l'occurrence, si tu peux détailler, ça peut, je pense, en aider pas mal.
Bah, voilà, bah, la caution vis-à-vis de la banque, on a négocié d'être caution le minimum possible, le minimum minimum possible, parce que justement en cas de déconfiture, bah, au moins on est redevable le moins possible. Et aussi, comme j'ai toujours des associés, c'était de signer une caution, mais pas solidaire et indivisible, c'est une caution pour chacun sa pomme en fait. Parce qu'il faut savoir que si on signe une caution solidaire et indivisible, vous êtes plusieurs actionnaires, on viendra chercher en premier chez le plus gros actionnaire en fait, celui-là qui a le plus gros patrimoine. Peu importe les autres.
Et en l'occurrence, si tu étais dans une posture de force, ça aurait pu directement entacher les différents business que tu as et qui tournent. Très intéressant. Et à l'issue de cette deuxième faillite, quelle est ta situation? Est-ce que ça impacte directement ton parcours à titre personnel et le reste de tes différentes structures? Ou pas, car désormais tu es beaucoup plus solide et tu t'es dit c'était juste de la diversification, j'ai mis en place les choses de manière intelligente pour ne pas que ça m'impacte ou ça mette en difficulté.
Voilà, c'est ça. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu plus de poids qu'il y a 15 ans, mais je ne mets pas tous mes fonds sur un projet. Je veux dire que si jamais, comme là, ça a été le cas, ça capote, je vais pouvoir y faire face et pouvoir continuer à vivre et à me développer. Donc ça, c'est très, très important, je trouve. Voilà, avec l'expérience que j'en ai maintenant aujourd'hui, je ferai jamais un all-in sur un projet. Ça, c'est hors de question.
Un autre point, c'est que finalement, la raison pour laquelle ce nouveau projet a fait faillite, c'est en grande partie, si ce n'est en intégralité, liée à la crise du Covid.
Oui, mais de nouveau, un peu, je relis ça un peu à ma première faillite. C'est le business model qui a changé très rapidement, en fait.
Intéressant.
Sans s'en rendre compte. Les vidéoclubs, bah, le téléchargement a changé la donne très rapidement. Ici, la pandémie, effectivement, ça a été compliqué pendant 3, 4 mois. Mais après, le business model a changé. Les gens ont connu le 100% télétravail pendant quelques mois, voire des années. Ce qui n'a jamais existé auparavant, quoi.
Et en l'occurrence, qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place pour vous adapter au business model plutôt que d'essayer de continuer à maintenir la barque à flot sans pour autant faire entrer quoi que ce soit?
Ben, on a essayé de développer tout ce qui était takeaway, livraison, mais voilà, ça a été très 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 compliqué à mettre en place. Notre clientèle, c'est essentiellement une clientèle de bureaux, trentenaires, donc ils étaient chez eux à la maison, donc ça a été vraiment très très compliqué et finalement ça n'a pas pris, quoi.
Ok, très clair. Et est-ce que, parce que 3 ans, c'est finalement la durée globale de cette pandémie, plus ou moins, finalement, est-ce que vous avez arrêté les robinets avant la fin de la pandémie, ou est-ce que vous les avez arrêtés une fois la pandémie terminée, mais parce qu'il n'y avait plus de possibilité de continuer, vous êtes dit on se résigne, on arrête, on tue le bébé presque dans l'œuf, il n'a pas encore vraiment éclos. Mais c'est OK et on continue sur nos activités.
Voilà. Non, non, on a décidé de malheureusement de tuer un peu le bébé dans l'œuf, parce que le business model a changé. Donc effectivement, on s'est retrouvé avec du 100% télétravail, puis à un moment donné, ça a été 50-50. Maintenant, je pense qu'on est à 10-20% de télétravail, mais ça change complètement le plan financier qu'on avait prévu, quoi. Donc on s'est dit à un moment donné, ça sert à rien d'essayer de sauver un bateau en train de couler, quoi.
Ouais, ça remettait l'ensemble des choses en question et le plan économique n'était plus viable tel qu'il l'était auparavant.
Voilà,
Ok,
c'est ça.
très clair. Un autre point aussi, c'est que tu mentionnes toi-même que tes deux faillites étaient liées. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage pourquoi tu vois ces échecs comme étant connectés, peut-être par ce concept de changement de business model que tu as évoqué à plusieurs reprises dans notre échange? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Le business model a fortement changé pour les deux faillites que j'ai connues. Alors moi, j'ai un bon ami qui est entrepreneur et qui dit maintenant tirer des plans sur la comète à l'heure d'aujourd'hui, à plus de 3 ans, c'est compliqué. Les marchés changent tellement vite, tellement rapidement, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que moi, personnellement, lancer un business et me dire, ouais, ça va être rentable dans 5 à 10 ans, j'y vais pas. No go. Okay. Moi, si je lance un business, il faut que j'arrive à retomber sur mes pattes au bout de 3 ans. Comme ça, si jamais le business change ou quoi que ce soit, je retombe sur mes pattes.
Ok, très clair. Parlons maintenant du business model de la franchise, justement, qui est un domaine que tu maîtrises plutôt bien, du coup, vu que tu as passé finalement ta vie entière aujourd'hui dans le monde de la franchise.
Comme franchisé.
Donc, tu es spécialisé dans les franchises. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce modèle plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était le bon business model à suivre pour toi?
Alors, moi, à la base, je me sens pas créatif. Je suis pas un créateur. Moi, démarrer comme toi ou comme certains entrepreneurs d'une feuille blanche et me dire « on y va », pour moi, c'est très compliqué. Donc, la franchise me convient parfaitement parce que je suis plus un développeur qu'un créateur. Et la franchise, bah, ça permet d'intégrer certains groupes qui ont déjà un beau parcours. Il existe des très, très grosses franchises, des belles franchises. Donc, moi, en tant que franchisé, ça me rassure un petit peu, je dirais. Il y a certains franchisés ou franchiseurs qui ont déjà essuyé quelques plâtres avant les autres.
Justement, quand tu parles du fait de se lancer dans ce modèle de la franchise, que ça rassure, etc., que certains ont déjà essuyé des plâtres avant les autres, imaginons que je suis un des auditeurs qui nous écoute ici et j'ai envie de me lancer dans le business model de la franchise en tant que franchisé, pas en tant que franchiseur. Et je dois choisir. Je dois choisir la franchise que j'ai envie de développer en particulier. Alors bon, déjà, la réalité, c'est que peut-être certains pensent que toutes les franchises nous attendent. La réalité, c'est que non, personne n'attend personne. Il faut se vendre et puis ça demande beaucoup de travail. C'est le business model de la franchise n'est pas la solution miracle. Mais ma question porte plus sur le sujet de ai-je plus d'intérêt à choisir une franchise comme, par exemple, je vais en citer une très connue, McDonald's, qui est une très grosse franchise très connue, où effectivement, tu ouvres un McDonald's et tu as de fortes probabilités que ça marche parce que le brand awareness et le brand love que les gens ont à l'égard de cette marque fait qu'il n'est plus approuvé. Mais il y a déjà beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de places, les emplacements sont comptés dans une géographie spécifique et c'est difficile peut-être d'en ouvrir un. Et coûteux.
C'est très, très difficile.
Voilà.
Des franchises comme ça, déjà bien implantées, c'est très, très difficile d'y accéder, je dirais, parce que ils ont peut-être 1000 candidatures par mois pour peut-être 2-3 places. Donc, voilà. Et puis, les fonds pour ouvrir un McDonald's, c'est pas les fonds pour ouvrir une franchise classique, je dirais, entre guillemets, hein. C'est pas la même chose non plus, hein.
Complètement. Et donc, déjà, ça donne un élément de réponse, en effet, mais est-ce que je m'orienterais plus sur une grosse franchise, une grosse enseigne connue, que ce soit celle-ci ou d'autres, peut-être plus accessibles, ou une franchise, une petite franchise, plus simple à ouvrir, moins contraignante, mais qui sur papier a l'air d'avoir un très gros potentiel, ou tout du moins, tu vois, je pense que c'est un petit peu le cas de ton concept de restaurant canadien. Tu avais soit une master franchise pour la Belgique ou pour une ville, et puis tu t'es dit, il y a un super potentiel, on va importer cette marque en Europe, ou en tout cas en Belgique, à Bruxelles, pour pouvoir faire ça. La question, c'est lequel des deux mondes recommanderais-tu? C'est quoi les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre?
Alors moi, je dirais que la personne qui veut se lancer en franchise, déjà, il doit avoir une affinité avec le concept qu'il vise. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut voir aussi, tu as certaines franchises avec 10 000 euros de fonds propres, tu peux te lancer. Il y en a certaines où c'est 500 000 euros de fonds propres. Donc, je dirais que voilà, tu as une affinité avec une belle franchise, mais on te demande 500 000 euros de fonds propres et tu n'en as que 10 000, ça va être compliqué. Donc, c'est surtout, une affinité, une confiance avec le franchiseur, ne pas se fier non plus au franchiseur à tout ce qu'il dit, mais bien se renseigner, aller discuter avec des franchisés, voir un peu l'historique, parce que c'est bien beau d'avoir une franchise avec 20 points de vente, mais il y en a 30 qui ont fermé les 2 dernières années, c'est compliqué, quoi. Hein.
Complètement.
C'est pas parce que c'est une franchise que c'est tout beau, tout rose et que ça va aller tout seul, hein.
Ouais, ça c'est un petit peu les idées reçues que la plupart des gens ont lorsqu'ils se lancent dans ce business model. Un autre point, c'est si là, tu avais face à toi quelqu'un qui va se lancer dans le modèle de la franchise, avec ton expérience, t'es plus de 20 ans d'expérience dans ce modèle-là, c'est quoi les erreurs les plus communes que la plupart des gens font ou pensent lorsqu'ils se lancent dans le business model de la franchise que tu aimerais leur éviter de faire?
De se dire que ça va être facile, que tout va marcher vite et bien. Moi, je dirais, renseignez-vous bien d'abord, analysez bien le contrat de franchise. Il y a certains contrats de franchise que c'est plus le franchiseur qui va gagner sa vie que le franchisé. Donc, bien, bien tout analyser, c'est le plus important. Bien discuter avec les différents franchisés, s'ils en ont la possibilité. Et c'est pas parce qu'un concept marche à l'étranger, qui fonctionnera en France, en Belgique ou en Suisse, et inversement.
Et un autre sujet, c'est imaginons là, je vais démarrer ma franchise. C'est quoi les éléments essentiels, les étapes essentielles que tu recommanderais de suivre pour assurer un démarrage stable, solide et réussi?
Ben, la première chose, donc, je dirais, c'est comme tout entrepreneur, il va falloir se retrousser les manches et bosser dans sa franchise. Ça, c'est inévitable. Et puis, voilà, moi, je dis toujours, il faut avoir une affinité, Alec. Si tu n'as pas une affinité avec le business que tu veux lancer, que ce soit en franchise ou ailleurs, ça va être compliqué, ça ne va pas tenir longtemps.
Ouais, complètement. J'évoque un sujet aussi tout à l'heure en off. Je te disais, t'es où là en ce moment? T'es dans ton bureau ou autre? Tu me disais, je suis dans mon bureau chez moi, mais j'aime bien et je préfère être dans mes bureaux aussi directement dans mes franchises pour être plus proche du terrain, plus proche du business. À un certain stade, à un certain moment, aujourd'hui, tu as 5 franchises, ça se passe super bien, vous êtes plus de 40 collaborateurs, vous faites un certain chiffre d'affaires, un beau volume. Tu es, j'imagine, parmi les leaders en Belgique dans cette franchise. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui versus le quotidien du François lorsqu'il a lancé sa première franchise où j'imagine tu étais finalement au four et au moulin?
Ah non, effectivement, il y a une belle différence qui s'est faite, mais je reste toujours actif. Moi, il y a 20 ans, quand je me suis lancé dans la franchise, je travaillais 6 jours sur 7. Hein. J'ai pas pris de congé, je pense, pendant 6 ou 7 ans. Pas un jour, Alec, hein. Pas un jour de congé. Donc voilà. Maintenant, effectivement, avec 5 boutiques et 40 collaborateurs, je dirais que je travaille plus 6 jours sur 7. Je me permets quelques jours de vacances par an quand même. Mais je veux rester proche de mes collaborateurs, je veux rester proche de mes boutiques. Et je reste actif, je reste pas derrière mon bureau, chez moi, à la maison, à analyser mes chiffres.
Un autre sujet aussi, c'est que une fois qu'on a mis en place un système, qu'on a des collaborateurs, qu'on sait piloter ces différentes entreprises, j'imagine aujourd'hui tu es plus dans les chiffres, le pilotage, la structuration, les process, la direction, le recrutement, peut-être le management d'une certaine façon, en tout cas de certains profils. On aurait peut-être envie de répliquer ce modèle et d'aller en prendre une sixième, une septième, une huitième. Finalement, dans la croissance justement d'une franchise comme celle dans laquelle tu es, Cash Converters, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que 3 franchises, 4 franchises, 5 franchises, c'est énorme? C'est beaucoup? Est-ce que tu pourrais multiplier par 2 le nombre de magasins dont tu disposes sans que ça pose problème? Comment tu le vois aujourd'hui avec du recul?
C'est assez dépendant du type de franchise qu'on est. Il y a des franchiseurs qui veulent que le franchisé ait 1 à 2 voire 3 boutiques. Il y a d'autres franchiseurs qui préfèrent que le franchisé ait quasiment un monopole sur une région avec 10, 15, 20 points de vente. Donc tout ça dépend réellement du franchiseur, je dirais. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec 5 points de vente, j'ai quand même 40 collaborateurs à mon actif. Je t'avoue que parfois, c'est pas rose tous les jours. Hein. Le problème de management du personnel, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui, est de plus en plus compliqué. Il y a 10 ans, je t'aurais dit, Alec, moi, je veux faire 10, 15, 20 points de vente. À l'heure d'aujourd'hui, avec 5, je perds le peu de cheveux qui me reste, hein.
Ouais. C'est quoi les plus gros challenges auxquels tu fais face, si tu peux en citer un ou deux anecdotiques récents?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le personnel. La
D'accord.
motivation des équipes, du personnel, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Ça devient compliqué de recruter du très bon personnel.
Qu'est-ce qui explique ça selon toi?
Je pense que les mœurs ont changé, Alec. Je parlais comme un vieux, mais moi, quand j'ai commencé à travailler ou à engager du personnel, la première chose qu'on me demandait, c'était quand est-ce que je commence à travailler? À l'heure d'aujourd'hui, la première chose qu'on me demande, c'est combien de jours de congé j'ai droit? Rien que ça, déjà, ça te donne déjà l'idée du type de candidat qu'on reçoit, quoi.
Complètement. Complètement. Et d'un point de vue plutôt plus concret, ça a quel impact sur le développement de tes boîtes? Est-ce que ça crée des erreurs qui pourraient être évitées? Ça crée des leaks au niveau de la productivité une confiance en la data et la prédictibilité des choses qui n'est plus la même que dans le passé.
À l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'est à chaque fois que je veux me développer ou quoi que ce soit, c'est quand même la question qui me revient sans cesse en tête, c'est quid du personnel en fait. À l'époque, ça n'aurait jamais été le cas, mais à l'heure d'aujourd'hui, je mets la balance dans la gestion du personnel qui, je trouve, est de plus en plus compliquée.
Ouais. Prenons un exemple concret. Là, demain, tu voudrais ouvrir une sixième boutique Cash Converters en Belgique. Une des premières questions, un des éléments, voire le seul élément qui fait que tu ne pourrais pas te lancer, plus que le cash, le potentiel, la stratégie, la gestion, c'est l'humain.
Ouais, l'humain. L'humain a de plus en plus d'importance, à tort ou à raison, mais ouais, la gestion de l'humain, je trouve qu'a pris énormément d'ampleur dans le business.
C'est vrai que c'est un sujet récurrent qui est évoqué par bon nombre de personnes, même ne serait-ce que l'on invite sur le déclic. Aujourd'hui, du coup, tu diriges plus d'une quarantaine de collaborateurs répartis dans tes 5 magasins. Comment est-ce que tu abordes le leadership, la gestion d'équipe au quotidien pour faire en sorte de maintenir au mieux possible la motivation, même si c'est vraisemblablement une problématique que tu as citée? Et l'engagement de tes employés tout en assurant la croissance et le bon fonctionnement de tes franchises. Puisque le but, c'est que même si tu en as 5, imaginons que tu ne puisses pas en prendre 6, 7, 8 à cause de l'humain, du recrutement et autres, c'est que les 5 en l'occurrence ici tournent bien et qu'elles puissent année après année même présenter de la croissance. Comment est-ce que tu t'y prends pour faire en sorte que les équipes contribuent à cette croissance?
Alors, les équipes qui sont en place, une fois que j'arrive à recruter des candidats, tout se passe relativement bien, je dirais. J'ai pas trop de problèmes. C'est vraiment le recrutement qui pose un souci. Mais mes équipes, une fois qu'elles sont en place, on a des objectifs, donc ils ont des bonus, ils ont des perspectives d'évolution. J'ai des apprentis qui sont devenus responsables de magasin. J'ai un responsable de magasin qui est devenu un de mes associés. Donc, des perspectives d'évolution dans mes boutiques à moi, en tout cas, il y en a. À l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai comme gros, gros problème, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, c'est le recrutement, en fait.
Comment tu t'y prends pour recruter imaginons là, demain, tu veux recruter un nouveau responsable de magasin. Alors, il y a quand même un point particulier dans ton cas, c'est que la plupart aujourd'hui des responsables de magasin ont débuté leur parcours chez toi en tant que stagiaire ou employé. Donc, c'est super intéressant. Ça dénote aussi le fait que un des points de ta culture, c'est l'évolution et le fait de permettre de donner sa chance à ceux qui le méritent et ceux qui se donnent les moyens. Et c'est motivant pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être travaillent à tes côtés et qui ont envie d'évoluer. Mais imaginons là, demain, tu voudrais ouvrir un sixième magasin. Comment est-ce que tu t'y prendrais pour mettre en place ton plan de recrutement, ta stratégie de recrutement et la déployer de la manière la plus efficace possible?
Alors, moi, il fut un temps où c'était le bouche à oreille qui marchait le mieux.
D'accord.
Les employés en place, voilà, comme ils étaient bien, ils en parlaient à gauche, à droite. Maintenant, ça fonctionne moins bien, parce que je ne sais pas pourquoi. La plupart sont bien pourtant, mais voilà. Mais sinon, point de vue recrutement, je suis un peu comme tout le monde, du classique. Je passe par des sociétés de recrutement, je mets des annonces, je passe par des sites spécialisés, je mets des annonces en magasin. Et donc, voilà quoi. Pour te donner une idée, là dernièrement, on cherchait un vendeur pour une de mes boutiques. On a reçu plus de 100 CV en 2 jours, Alec. Sur les 100 CV, on en a contacté une vingtaine. Sur la vingtaine, il y en a une dizaine qui se sont présentés. Sur la dizaine, il y en avait peut-être que cinq qui étaient réellement motivés. Et puis au final, quand tu les recontactes, tu en as peut-être un ou deux, si tu as de la chance, quoi.
Ok. Et les autres, ils ont disparu de la circulation.
Voilà. Les autres, tu te demandes, ils t'envoient une lettre de motivation, un CV, tu les contactes, tu demandes de venir à l'entretien, ils viennent pas, tu te demandes ce qu'ils font, en fait. J'ai du mal à comprendre, je t'avoue, Alec. C'est quelque chose qui me dépasse.
Ouais, c'est un phénomène que peu de gens effectivement comprennent, que l'on constate aussi auprès même de certains entrepreneurs que l'on accompagne avec entrepreneurs.com, mais je pense pour ma part qu'y a pas mal d'éléments qui expliquent cela, hein, ne serait-ce que la mode de l'entrepreneuriat, le télétravail, le Covid a changé beaucoup de choses dans la perception du travail, du salariat et autres pour beaucoup. Donc ouais, c'est une vraie problématique et aujourd'hui on est rentré dans une ère où c'est souvent les employeurs qui doivent augmenter leur employabilité et se vendre auprès des meilleurs employés, alors qu'avant les employeurs avaient peu de choses à faire et c'était les employés ou futurs employés potentiels qui devaient prouver leur capacité pour pouvoir augmenter leur employabilité. Donc, ouais, c'est un cadre qui est particulier, qui change pour différentes raisons. Aussi, je reviens sur ce concept où la plupart de tes responsables de boutique ont commencé avec toi. Comment ce process s'inclut dans, finalement, ou contribue même à la culture d'entreprise que tu as établie et la réussite de tes franchises?
Ben, en fait, moi, je suis un bon exemple pour eux parce qu'en fait, moi, j'ai commencé du bas de l'échelle et donc ça leur permet de voir que tout est possible et que on peut évoluer et devenir à son tour soit responsable d'un magasin, soit associé, soit se développer de son côté. Donc, je pense que c'est ça que j'arrive à vraiment inculquer dans mes équipes, en tout cas.
J'ai une question qui me vient, qui est une question qui, je pense, traverse l'esprit de certains de nos auditeurs. C'est compte tenu du fait qu'aujourd'hui, tes responsables de magasin sont anciennement soit des stagiaires, soit des employés, ça veut dire et ça sous-entend qu'ils ont suivi l'ensemble du parcours, qu'ils connaissent tous les tenants et aboutissants de chacune des boutiques, raison pour laquelle ils sont les plus légitimes à en être responsables et pouvoir les diriger. Tout en maintenant une certaine performance sous bien sûr ta supervision. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire en sorte que ces personnes restent à tes côtés responsables de ces boutiques et magasins, à défaut de quitter et ouvrir eux-mêmes leur propre franchise ou leur propre magasin, que ce soit au travers de cette franchise ou d'une autre? Parce que à partir d'un certain moment, certains pourraient peut-être se dire, ah, maintenant, finalement, je suis responsable, j'ai compris le truc, je peux moi-même lancer mon propre business. Est-ce que tu as mis en place des mécanismes, par exemple des participations, par exemple des incentives directement à la performance ou autres, pour garder tes meilleurs éléments à tes côtés?
Alors oui, j'ai mis des incentives en place. Il faut savoir que tous mes collaborateurs ont des bonus qui sont liés aux résultats. Donc si moi je gagne, eux ils gagnent aussi.
D'accord.
Donc moi je suis toujours dans le partage et dans le win-win. Après, quand tu disais comment est-ce que je fais pour les garder, moi si demain mes responsables me disent j'ai envie de me lancer, honnêtement Alec, c'est tout le bien que je lui souhaite, hein. Je lui expliquerai qu'il doit faire attention et compagnie, mais moi c'est tout le bien que je lui souhaite. Moi, on m'a permis à un moment donné d'évoluer. Ben, moi, c'est ce que je souhaite à mes responsables ou à mes collaborateurs. C'est qu'ils puissent eux aussi à un moment évoluer ou voler de leurs propres ailes. Voilà quoi.
Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que justement tu as cet état d'esprit qui n'est pas anodin hein, de vouloir permettre aux autres de pouvoir grandir, évoluer, s'épanouir et d'être dans un esprit très méritocratique finalement des choses. Ce qui fait que tu as fait évoluer même dans ta propre boîte certains profils alors que d'autres diraient c'est une erreur. Il faut recruter des gens qui ont déjà les épaules, qui ont déjà les compétences, qui ont déjà l'expérience, quitte à ce qu'on les paye un petit peu plus cher, c'est pas grave, ça va nous coûter bien plus cher que de payer les erreurs de ceux qui n'ont pas l'expérience. J'imagine même que ce discours, tu l'as déjà entendu en échangeant avec différents entrepreneurs peut-être. Qu'est-ce qui fait que toi, tout de suite, tu as eu cet état d'esprit de faire évoluer les gens? Est-ce que c'est parce que, tu l'évoquais tout à l'heure, bah, tu es parti d'en bas, entre guillemets, tu as démarré de zéro et tu as toi-même eu la chance de pouvoir grandir et évoluer? Est-ce que c'est pour une autre raison?
Alors, moi, Alec, comment je fonctionne avec mes gars? Moi, l'expérience, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la motivation des gars. Tu peux avoir quelqu'un avec énormément d'expérience qui est motivé, quasi rien, ben, ça va pas aller loin. Et tu peux avoir un gars qui n'a aucune expérience, mais qui est très motivé, il va se développer très vite. J'ai eu cas, j'ai engagé des collaborateurs. À l'entretien, ils m'ont dit, je ne connais pas votre business, mais ça m'intéresse. Et je veux évoluer et je suis motivé. Et on a fait des tests. Et effectivement, au bout de 3-4 mois, certains de ces gars-là ont évolué comme jamais, Alec.
Ok. Et est-ce que tu as mis en place un process justement pour identifier ces gens lors d'entretien? Tu vois, nous par exemple, on fonctionne, alors certes, il y a tout ce qui est fiche de poste et j'en passe, scorecard, plusieurs entretiens, filtre de vérité. Je t'en avais parlé même une fois dans le cadre d'une conférence qu'on avait fait à. C'était pas à Athènes, c'était à. Je sais plus où c'était, mais qu'est-ce que tu as mis en place justement pour identifier et faire sortir du lot les candidats qui vont te dire moi je suis motivé, j'y connais rien, mais je suis motivé, et ceux qui vont peut-être te dire la même chose, mais par contre, ça va pas forcément bien se passer.
Ouais. Alors bah ça marche pas tout le temps non plus, hein, Alec, parfois on se rate un petit peu, mais là par exemple lors des entretiens, je suis pas le seul, vu que j'ai des associés, des collaborateurs, tout le monde est intégré dans le
Dans le processus.
Dans les interviews, voilà, dans le processus, effectivement, parce que plusieurs avis valent mieux qu'un. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc on est plusieurs à valider le candidat. Et puis moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est une journée test, voir comment le candidat se comporte sur le terrain. Et là, effectivement, ça reflète directement si ça colle ou pas avec l'entretien qu'on a eu avec ce candidat, quoi.
Ok, complètement, je vois. Une seule journée suffit dans ton cas pour pouvoir identifier si ça colle?
Ouais, dans 90% des cas, Alex, ça suffit. En une journée, tu peux voir si le candidat est réellement motivé ou pas.
Et tu penses que là, si quelqu'un qui a des business physiques nous écoute, c'est plus ou moins véridique pour la plupart des business physiques, parce que dans d'autres types de business, effectivement, une journée ne suffirait pas. Typiquement, dans notre cas, en général, on parle plus sur 3 jours à une semaine, donc 3 à 5 jours, selon bien sûr la typologie de poste. Mais du coup, en une journée, j'imagine que tu n'identifies pas simplement la capacité d'un individu à exécuter des tâches, mais plus l'attitude de
Voilà,
l'individu.
l'attitude.
Ouais, ok.
C'est l'attitude.
D'accord.
Moi, en fait, j'ai un ami entrepreneur qui a ces deux mots-là toujours en tête, c'est attitude et aptitude. Il faut que le candidat ait ces deux choses-là. Et moi, effectivement, il faut qu'il les ait, ces deux choses-là. Mais je regarde d'abord l'attitude avant l'aptitude.
Ouais, ce qui fait sens. Ce qui fait sens, parce que selon l'attitude, les aptitudes, tu peux les acquérir assez rapidement dans certaines typologies de business. Très clair. Un autre point, c'est concernant les associations. Je pense que on a vu pas mal de sujets liés à la faillite, à la franchise, et le sujet de l'association, c'est quand même un sujet intéressant, surtout te concernant, parce que tu as toujours tout fait avec ton frère, sauf erreur. Du coup, travailler avec sa famille, souvent, c'est un peu controversé. On entend tout et son contraire. C'est génial, il faut être uni, et puis on peut faire confiance à la famille, ou d'autres diront, il faut pas tout mélanger, c'est compliqué, ça peut créer des tensions et parfois même se déchirer. Comment toi, tu as géré la chose pour faire en sorte que votre relation eh bien, soit même encore plus forte finalement? Comment gérez-vous les décisions et les différences d'opinion lorsqu'il y en a? Toutes ces questions que peut-être certaines qui nous écoutent se posent, notamment lorsque l'on veut travailler avec un membre de sa famille ou avec son conjoint ou sa conjointe, pour éviter justement différentes problématiques.
Alors moi, il faut savoir que c'est un peu particulier avec mon frère, c'est que on est un peu comme les deux doigts de la main. On a moins de 2 ans de différence, donc on va dire presque jumeaux. On a toujours été solidaires entre nous, Et donc, ça a été une évidence, en fait. Ça a été une évidence de m'associer avec lui. On est très complémentaires. Moi, je suis d'une nature assez impulsif, fonceur. Lui est de nature assez calme, tempéré. Donc, on est vraiment très complémentaires dans notre association, et ce qui permet que ça fonctionne bien entre nous, quoi. Et on ne mélange pas privé et business.
D'accord. Donc,
Donc, si on a un souci point de vue professionnel, ça n'impactera pas notre relation entre frères, ça n'impactera pas notre famille, et inversement, si on a un souci familial, ça ne doit pas impacter notre business.
dans tous les business dans lesquels tu es, donc vous êtes ensemble?
Où il y a juste une boutique, la première boutique où il n'était pas, il n'est pas dedans.
Et sur les business dans lesquels vous êtes ensemble, justement, comment est-ce que vous répartissez les tâches? Parce que tu as évoqué un élément intéressant, c'est la complémentarité. Souvent, les gens, lorsqu'ils s'associent, oublient ce point clé. On ne s'associe pas pour être deux, mais on s'associe limite pour être trois. Un plus un ne doit pas égaler deux, mais trois, parce qu'il y a vraiment les deux personnes dissociées, plus la liaison des deux qui fait que tu as une valeur supplémentaire. Comment est-ce que vous répartissez les tâches et comment ça s'est fait et identifié?
Alors, lui est plutôt sur le terrain avec mes responsables de magasin, mes collaborateurs. Moi, je suis un peu plus en retrait, je suis plus dans l'analyse, dans le développement, dans le management, dans le process. Et donc, ce qui fait qu'on ne fait pas tous les deux la même tâche. Donc, ça permet déjà d'éviter les conflits. Donc, voilà. Et c'est pareil pour mes autres associés. Moi, j'ai d'autres associés dans d'autres boutiques. On est à chaque fois plusieurs. Mais ça permet aussi de nous challenger, Alec. Ça permet en fait de moi pas rester sur mes acquis et de me reposer sur mes lauriers. Et eux, ça permet que je les challenge aussi. Donc, on essaye d'aller tous dans la même direction et on se challenge, on se calme quand il faut se calmer. Et voilà quoi.
Et justement, tu l'évoques, dans chacune de tes entreprises, tu as des associés différents. Quelle est pour toi la valeur ajoutée d'avoir un associé dans chaque projet?
Bah, en fait, ça s'est fait un peu au cas par cas. C'est qu'à un moment donné, j'avais un collaborateur et je me suis dit, ouais, quitte à faire cette nouvelle boutique, pourquoi pas la faire avec lui? Ça permet de qu'il se développe aussi. Ça me permet à moi d'avoir un œil extérieur aussi dans la boutique. Et donc voilà, moi j'aime bien me développer, mais j'aime bien que les gens se développent avec moi aussi.
Ok, donc finalement, la question que je posais tout à l'heure où je te demandais comment garder les meilleurs éléments, tu m'évoquais le fait de les incentiver à la performance, mais certains, tu es allé jusqu'à ouvrir des boutiques avec eux.
Oui, tout à fait.
Ok, très clair. Et finalement, s'associer pour moi dans le business, c'est un peu à l'image d'un mariage dans le perso.
Ouais.
Choisir sa femme, c'est quand même une décision importante. Choisir son associé, ça l'est aussi. Très importante. C'est quoi, toi, la philosophie ou les éléments importants que tu prends en considération derrière le choix d'un associé? Parce que j'imagine que le simple fait d'être un bon collaborateur ne va pas faire que la personne va être un bon associé également. Et il y a bien d'autres critères qui doivent être pris en ligne de compte. Lesquels sont-ils selon toi?
Alors, avoir la même vision, en fait. Avoir la même vision, c'est important, Alec. Et de se dire qu'on est tous dans le même bateau et qu'on va tous naviguer ensemble dans la même direction. Après, effectivement, c'est comme un mariage, hein. Les choses changent et parfois l'envie d'un associé ou d'un collaborateur, elle change. On avait une perspective de se dire on va ouvrir trois boutiques et finalement, il y en a un qui décide de déménager ou de réduire son train de vie ou que sais-je. Donc, il faut parfois se remettre en question, je dirais régulièrement, et voir si on est toujours bien tous dans la même direction.
Complètement. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, grosso modo, ça représente combien de chiffre d'affaires l'ensemble de ces structures?
Alors là, sur les 5 points de vente, on tourne aux alentours des 20 millions.
D'accord. Ça commence à être un très beau volume et félicitations pour ça. Imaginons qu'un jour, tu as une proposition, tu as envie d'en sortir, tu as envie de revendre ces entités parce que finalement, le dénominateur commun de chacune de ces entités, c'est toi la personne qui les a initiées et qui est l'élément qui les lie toutes les unes aux autres. J'imagine que ça aussi doit rentrer en ligne de compte de cette fameuse vision. Est-ce qu'on est là pour créer, développer et faire en sorte d'être le plus gros possible? Est-ce qu'on est là pour créer, développer, faire un maximum de cash flow possible, donc de rentabilité possible? Ou est-ce qu'on est là pour tout ça, mais aussi, le jour venu, eh bien, revendre à la meilleure des propositions possibles? Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser selon moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu recommanderais à nos auditeurs qui peut-être sont dans le même cas que toi ou qui veulent le devenir, de prendre en considération pour pouvoir se projeter davantage et s'assurer que la vision est la même pour chacune des personnes avec lesquelles il va travailler, en particulier les associés constituant ces entités?
Tout à fait, tu as bien résumé, Alex. Alors moi, comment je fonctionne? Moi, j'ai une vision toujours à 3 à 5 ans, généralement, et on fait le point tous les ans.
D'accord.
Mais mes associés savent très bien que d'ici 3 à 5 ans, il y a des choses qui vont se passer. Et donc, tous les ans, on fait le point, voir si on prolonge cette deadline ou si on la raccourcit. Mais ça permet que les choses sont claires pour tout le monde. Et donc, ça permet à chacun de tirer ses conclusions aussi et de voir un peu qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Si après 22 ans finalement d'expérience dans le monde de la franchise, tu avais une leçon à partager, ça serait laquelle? À savoir que un point quand même important à préciser, c'est que tu es du côté des franchisés, tu n'es pas du côté des franchiseurs. Ouais. Et je pense que ça, c'est une grande nuance à prendre en considération.
C'est deux choses totalement différentes, hein. Être franchisé et être franchiseur. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, je préfère être du côté franchisé que franchiseur.
Intéressant.
Mais ça, c'est chacun son point de vue.
Pourquoi? Pourquoi, selon toi?
Parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un créateur, je suis un développeur. Donc, moi, j'aime bien voir ce qui se passe ailleurs et puis je le développe. Mais j'ai pas l'âme d'un créateur, Alec. Donc, commencer à créer quelque chose from scratch. C'est pas mon délire, c'est pas ma personnalité en tout cas.
Ok, donc choisir le camp, franchise et franchiseur, finalement, c'est aussi savoir qui l'on est.
Voilà, tout à fait.
Je reviens à ma question que je voulais te poser, c'est sur ces 22 années d'expérience en tant que franchisé, c'est quoi le conseil, le truc que tu aimerais absolument partager? C'est mon avant-dernière question pour toi justement. Je profite d'avoir quelqu'un qui a accumulé toute cette expérience en tant que franchisé dans un business physique pour te la poser.
Alors moi, je dirais que après autant d'années dans la franchise, je dirais que toutes les franchises ne se valent pas. Il y a à boire et à manger dans toutes les franchises. Quelqu'un qui veut se lancer doit, je vais me répéter, mais bien analyser et ne pas hésiter à se renseigner et à se lancer.
Un point aussi sur lequel je rebondis par rapport à ce conseil, un des points d'analyse qui est clé selon moi, c'est aussi le deal finalement entre le franchisé, le franchiseur, le business model lui-même, de façon à avoir une projection sur la rentabilité. Parce que souvent, quand tu vas créer une franchise, tu vas pouvoir te dire « Ouais, je vais faire un chiffre d'affaires énorme, ça va être dingue, génial, super. » Sauf que beaucoup ne prennent pas en considération tous les tenants aboutissants, combien ça va coûter à la mise en place. Il va falloir peut-être emprunter, ce qui a été ton cas. Il va falloir ensuite prendre en considération non pas le chiffre d'affaires, mais la marge. La marge, ce n'est pas le profit. Ensuite, il y a une redistribution justement d'un certain pourcentage soit du chiffre d'affaires soit du profit qui doit être fait aux franchiseurs. Donc c'est toutes ces variables qui rentrent en ligne de compte.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'une franchise n'est pas l'autre, parce que tu as certaines franchises qui te demandent un énorme droit d'entrée, un énorme pas de porte, tu as d'autres franchises qui t'en demandent pas beaucoup, tu as des franchises qui te demandent des grosses redevances, tu en as d'autres qui te demandent pas grand chose, tu as des franchises où la redevance est liée au chiffre d'affaires et d'autres c'est des redevances fixes. Donc, il faut vraiment bien analyser tout ça et effectivement, et pas se fier que au chiffre d'affaires. Il faut regarder, je dis toujours, la dernière ligne et voir qu'est-ce qui restera à la fin.
Complètement. Et ça vaut pour n'importe quel type de business, que ce soit les business franchise, mais d'autres aussi où souvent, on a le constat d'entrepreneurs qui vont travailler pendant un mois, deux mois, six mois, un an sur un projet pour se rendre compte par la suite que c'est même pas forcément viable économiquement. D'où l'importance de se poser les bonnes questions sur ces sujets. François, c'était un plaisir de pouvoir t'accueillir pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, faites-le nous savoir encore une fois en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, en partageant cet épisode. On fera un article LinkedIn comme on le fait à chaque fois sur cet épisode et on mettra tes liens, François, sous cet épisode également pour celles et ceux qui aimeraient peut-être te retrouver ou échanger directement avec toi sur différents sujets. Ça se trouve, tu vas trouver un talent qui a écouté cet épisode, qui voudrait absolument travailler avec toi et qui lui est motivé ou d'autres choses. Dans tous les cas, c'était
le
parfait, ben, on y saura, ou elle saura. C'était un plaisir de pouvoir t'accueillir. J'ai une dernière question que je pose à chaque invité du Déclic. Tu la connais, cette fameuse question, c'est... est-ce qu'il y a un déclic ou un élément que tu voudrais partager qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi ? Ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
Alors, moi, j'ai juste une phrase que je garde toujours en tête suite à mes différentes faillites, c'est que tout est possible et tout se négocie dans la vie. Quand je vois le montant de ma dette initial et ce que j'ai réussi à en obtenir, je me dis que dans la vie, tout est possible.
Merci François.
Merci Alec, merci beaucoup pour l'invitation.